salut. Bienvenue à l'émission Point de vue, Boris Chassaigne qui est avec vous pour la prochaine demi-heure. Cette semaine, on vous parle bien sûr du conflit israélo-palestinien. Marie Illès a pu joindre deux Israéliens sur le terrain au Proche-Orient et des Palestiniens de la région d'Ottawa qui nous offrent des témoignages déchirants.
On s'inquiète pour des choses qui sont évidentes. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'habiter en Israël pour comprendre que quand on est une mère et qu'on a une fille qui est au front, on s'inquiète pour sa vie.
J'ai une minute, soit 60 secondes pour aller trouver refuge dans un bunker à l'étage inférieur.
Je dors en pleurant des fois et je me réveille en pleurant. Depuis le 7 octobre, Israël a tué 5087 Palestiniens, 2055 enfants, 18 journalistes. C'est un massacre, c'est un génocide.
La sénatrice Claudette Tardif devient la seconde francophone à être honorée de l'Ordre d'excellence de l'Alberta.
Je suis fière d'être ici. Je suis fière de parler de l'importance de notre francophonie, de l'importance de nos deux langues officielles au Canada et de faire la promotion de la langue française.
Le Collège boréal de Toronto vient d'inaugurer un nouveau campus dans les édifices de l'ancienne distillerie. Et s'il nous reste du temps, on ira voir ce qui se trame au Québec à notre écran radar pour vous parler de baleines bleues et de développement durable.
Vous savez, la Côte-Nord est une région en décroissance, la seule région au Québec où on perd des citoyens. Alors, il faut freiner cette décroissance.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Merci beaucoup d'être avec nous et de nous tenir compagnie. À nous, les boulimiques de l'info. La guerre entre le Hamas et Israël, déclenchée le 7 octobre dernier suite à une série d'attaques du Hamas contre des civils et les forces de l'ordre en Israël, est en train de transformer le Proche-Orient. Et depuis plus de deux semaines, la vie en Israël et à Gaza n'est certainement plus la même. La vie des populations originaires des deux territoires a radicalement changé en l'espace d'une seule journée. Qu'ils soient au Proche-Orient ou sous d'autres latitudes, Palestiniens et Israéliens sont inquiets, tristes et déchirés. Les horreurs de la guerre s'accumulent. Notre journaliste à Ottawa s'est intéressé à eux sur le plan personnel et nous offre d'abord ici les témoignages de deux Israéliens qui sont encore là-bas. Celui de Myriam Azougi Albouax. Elle habite Ra'anana, une petite ville au nord de Tel Aviv. Elle vit en Israël depuis 7 ans. Elle avait avant cela vécu pendant 11 ans à Montréal. Elle est mère de 3 filles. Puis Olivier Marceau qui vit à Be'er Seva, c'est la plus importante ville au sud d'Israël, située à quelques 40 kilomètres de la bande de Gaza. Il est arrivé en Israël en août 2022. Les voici racontant leur quotidien au micro de Marie Illès.
Moi, j'ai une fille qui est sur le front en ce moment, il y a 19 ans. Ce qu'on a en face de nous, c'est une telle haine, c'est une telle barbarie. On se dit, c'est mon bébé qui est face à ça.
Myriam Azougi Albouax habite à Ra'anana, dans une petite ville au nord de Tel Aviv. Elle vit en Israël depuis 7 ans. Elle est mère de 3 filles.
On dit toujours que le boulot de mère, c'est un des boulots les plus difficiles. La job de mère, c'est vraiment une des plus dures. Mais alors là, c'est très dur parce qu'on se pose plein de questions sans arrêt, quoi, non-stop. Sur sa responsabilité, sur... Puis on s'angoisse beaucoup. Alors quand on a une fille qui est au front, évidemment, moi je dors pas beaucoup. Heureusement qu'on est à la radio d'ailleurs. On a du mal à tenir un semblant de bonne tête. On s'inquiète pour des choses qui sont évidentes, quoi. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'habiter en Israël. Comprendre que quand on est une mère et qu'on a une fille qui est au front, on s'inquiète pour sa vie.
Olivier Marceau se situe à Be'er Sheva, qui est la plus grosse ville dans le sud d'Israël, à 40 km de la bande de Gaza. Il est arrivé en Israël en août 2022. Il raconte ce qu'il a vécu le 7 octobre dernier.
Il y a eu une alerte au missile ici dans le sud d'Israël à 6h30 du matin. J'ai été réveillé par une très forte alerte au missile. Puis étant donné la courte distance de 40 km, j'ai une minute, soit 60 secondes pour aller trouver refuge dans un bunker à l'étage inférieur. Donc, en entendant cette alerte au missile, je me précipite hors du lit, je mets mes shorts et mon t-shirt et je me précipite à l'étage inférieur. Je peux vous dire que pendant 4, 5, voire 6 heures qui ont suivi, il y avait des alertes au missile de façon intermittente. Donc, je dois trouver refuge dans un bunker à chaque fois. Je peux vous dire qu'il y a un missile qui a frappé un appartement à 2 kilomètres d'ici. J'étais en mesure de le voir de la fenêtre d'appartement où je me situe. Il y avait un gros nuage de fumée noire que je pouvais voir à l'horizon.
Olivier souligne qu'émotionnellement, cette guerre est très difficile.
Ça l'affecte les gens personnellement. Ma copine, c'est celle que je vois à tous les jours. Donc, je le vois personnellement. Elle a certains, comme je peux permettre l'expression, elle a des breakdowns. Genre, elle pleure. Ça l'affecte sa famille. Sa famille est en danger. Et moi, je suis ici avec elle. Elle a souci de moi aussi. Je peux aussi dire que, par exemple, comme dès que le conflit est éclaté, ses trois collègues de travail qui ont été tués, il y en a un, elle était à son mariage il y a 2 ans. Il a été tué à l'âge de 28 ans par le Hamas. Il laisse derrière lui un jeune enfant d'un an et une femme.
Myriam et Olivier expliquent leur raison de rester en Israël malgré la guerre.
Mes fonctions sont ici pour l'instant. Ma copine est ici. Elle a été appelée comme réserviste. Elle s'en va comme réserviste à une base militaire cette semaine. Elle attend les détails très prochainement. Donc, ma copine est ici, sa famille est ici, mon travail est ici, son boulot est ici. Donc, c'est la raison pour laquelle je reste en Israël. Si c'était vous, je pense que vous ferez pareil. Si votre famille était là, votre copine, votre conjoint, peu importe votre travail, vous déciderez pareil.
On m'a beaucoup posé cette question, qui est une question difficile. Hein. Mais on appartient à cette terre, on appartient à ce peuple, et on est à la maison. On est ici, chez nous.
L'Association des Canadiens d'origine arabo-palestinienne, en anglais Association of Palestinian Arab Canadians, ou APAC, rassemble les Palestiniens vivant dans la région d'Ottawa et leur propose, mais en temps normal, des activités culturelles, éducatives et de loisirs. L'APAC joue également le rôle de groupe de défense des droits des Palestiniens vivant au Canada. Marie Hillès a rencontré Radi Chaouri, membre de l'Association des Canadiens d'origine arabo-palestinienne, et Nora Fatalipour, avocate de la région de Toronto.
J'ai pleuré avec ma mère, puis je l'ai promis que je ne vais pas pleurer. Je vais garder mon sérieux, puis juste pour que je puisse faire bien représenter qu'est-ce qui se passe en ce moment.
Radi Chaouri est membre et ancien président de l'Association des Canadiens d'origine arabo-palestinienne. Il est né en Palestine, mais il vit au Canada depuis qu'il a 4 ans.
Ce n'est pas des numéros, des familles, des individus, des humains comme moi et comme vous, Marie, qui ont une vie, qui ont une carrière, qui aiment la vie, qui veulent la paix. Mais malheureusement, Israël ne permet pas d'avoir tout ceci. Malheureusement, ils sont tués par le gouvernement et l'armée israélienne. Et pour décrire cela, c'est vraiment, je vais pas utiliser un autre mot. Et le seul mot que je vais utiliser, c'est un génocide. J'ai eu beaucoup, beaucoup de fois où je pleurais. Je dors en pleurant des fois et je me réveille en pleurant. Je suis toujours en train de regarder les nouvelles. Et vous savez bien, il y a environ une centaine qui ont été tués en Cisjordanie, des Palestiniens qui ont été tués en Cisjordanie. Et autre que ça, à Gaza, ça c'est vraiment où est-ce que le grand problème se passe, le génocide israélien effectué sur notre peuple palestinien à Gaza, vraiment, vraiment difficile. On a plusieurs familles ici à Ottawa, plusieurs. Je te parle d'une vingtaine de familles qui ont perdu des membres de leur famille, des gens qui ont été tués par les bombardements israéliens. On a de ces vingtaines, il y en a environ 200 Palestiniens qui ont été tués, qui appartiennent à des familles qui sont ici, à Ottawa, plus de 200. Des familles complètes.
Maître Nora Fatalipour est avocate en Ontario. Une de ses spécialités est la discipline académique et professionnelle. Dans une publication sur les réseaux sociaux, elle propose à ceux et celles qui ont peur des représailles concernant leur soutien à la Palestine, une assistante légale gratuite. En 4 jours, elle a reçu 200 messages.
Issues at work a lot of the time. You know, many people have been terminated from their work, and it's also people who are facing issues at their academic institutions.
Members. C'est surtout des gens qui ont eu des soucis au niveau de leur travail. Beaucoup ont été licenciés. Mais j'ai aussi reçu des messages de gens qui ont peur pour leur emploi, car eux ou leurs employeurs ont reçu des messages anonymes par rapport à des messages qu'ils ont publiés sur les réseaux sociaux.
Anonymous complaints, either directly or to their employer or other people who you know, they might be around, such as, you know, university, administration and things like that.
Elle souligne que ce sont des questions complexes.
People don't lose their charter rights to free speech and political expression. Just because of where they work.
Les gens ne perdent pas leur droit de parler librement juste parce qu'ils ont un travail ou parce qu'ils intègrent une université. Mais comme toutes les lois, ces lois ont des limites. Donc, il faut trouver le bon équilibre.
Those rights are subject to reasonable limitations. And so it's really about finding that balancing act.
Radi souligne que la communauté est désespérée.
C'est difficile pour nous parce qu'on voit que le gouvernement, ils ont pris un côté. Et c'est sûr, et c'est évident, par leur déclaration. On voit aussi que dans des institutions privées, comme les banques, comme aussi les institutions d'école, les conseils d'école, aussi pris d'un côté, ils ont envoyé des courriels supportant un côté et négligé l'autre côté. Donc, des messages et des courriels ils ont envoyé des courriels en supportant et en des courriels de soutien pour les juifs qui sont d'origine israélienne ou les juifs qui supportent l'État israélien, des courriels de soutien en négligeant totalement négligeant le côté palestinien et les émotions des Palestiniens et le point de vue des Palestiniens. Plusieurs des la communauté palestinienne ici, canadienne, sont nés ici. On parle de milliers, puis ils se sentent vraiment inférieurs en ce moment et que notre valeur n'est pas prise, elle est moins valorisée, que notre vie est moins valorisée que la vie des autres.
Radi partage quelques chiffres concernant la bande de Gaza.
Je vais seulement vous donner des stats ici que j'ai devant moi. Parce que je veux vraiment pas je veux dire vraiment les stats que j'ai trouvées ici. Ça, c'est du ministère de Gaza, ministère de santé de Gaza. Depuis le 7 octobre, Israël a tué 5087 Palestiniens, 2055 enfants, 18 journalistes, 49 travailleurs et travailleuses médicales, 61 enseignants et enseignantes, 29 employés des Nations Unies. Et Israël, depuis le 7 octobre, a bombardé 51% des maisons à Gaza, 206 écoles, 25 cliniques, hôpitaux, et des mosquées et des églises. C'est un massacre, c'est un génocide. Et ici, au Canada, les prises de position de notre gouvernement, des institutions privées, des écoles, nous laisse sentir inférieurs et nous laisse sentir qu'on n'est pas canadien. Moi, je suis ici depuis j'ai 4 ans.
Des témoignages difficiles, mais qu'il faut entendre dans les deux camps et on voit bien là que personne ne gagne quoi que ce soit dans ce conflit. Merci à Marie Hillès qui s'est démenée pour nous rapporter ces témoignages dans les deux camps. Pas facile de prendre publiquement la parole pour plusieurs personnes qui craignent les représailles.
Bonjour, ici Maxime Gauthier à Saint-Quentin. Vous écoutez Point de vue.
L'ancienne sénatrice albertaine Claudette Tardif vient d'être honorée de l'Ordre d'excellence de l'Alberta. Ça, c'est la plus haute distinction que la province de l'Alberta peut décerner à un citoyen. Madame Tardif, écrit l'Université d'Ottawa, est reconnue depuis longtemps comme l'une des principales championnes des droits linguistiques et culturels des minorités au Canada. Et pour sa remarquable contribution au domaine de l'éducation secondaire et postsecondaire, Madame Tardif, qui a au fil de sa carrière, aussi été membre de plusieurs comités sénatoriaux. Elle a travaillé sur diverses questions politiques et législatives. Elle a également été professeure puis doyenne à la faculté Saint-Jean de l'Université de l'Alberta. L'Ordre d'excellence de l'Alberta reconnaît les Albertains de tous les domaines d'activité et de tous les horizons. Notre reporter Élie Coulou a recueilli les premières impressions de Claudette Tardif.
Évidemment, je ressens beaucoup de fierté. Fierté parce que je pense que c'est une valorisation pour la communauté francophone à laquelle j'ai toujours été engagée et à laquelle j'ai toujours été fière d'appartenir. Alors, je vois ça comme étant un rayonnement, si on veut, de la francophonie. Et donc, je suis très contente. Je suis seulement la deuxième francophone qui a reçu cet honneur. Le premier a été Maître Louis Desrochers en 2001. Et il y a seulement 212 Albertains qui ont reçu ce prix prestigieux, si on veut, cette reconnaissance prestigieuse. Et donc, je suis très fière, mais en même temps, je ressens aussi beaucoup d'humilité parce qu'évidemment, tous les récipiendaires sont des gens qui sont extraordinaires et qui méritent bien, qui ont fait beaucoup de choses pour la province de l'Alberta, mais aussi pour le Canada. Alors, je ressens beaucoup d'émotions.
C'est incroyable le parcours que vous avez eu. Vous vous êtes battu pour la langue. Je me demande, quel lien avez-vous avec la langue française?
Pour moi, la langue française a toujours fait partie de mon identité. Ma grand-mère, Ernestine Provost, qui est venue en Alberta au début du 20e siècle, elle a toujours cru, évidemment, elle était enseignante à l'île d'Orléans, au Québec. Et elle est venue en Alberta au début, comme je disais, du 20e siècle. Elle s'est installée à 100 km à peu près d'Edmonton. Elle a rencontré mon grand-père, qui aussi avait acheté ce qu'on appelait un homestead à ce temps-là. Et puis, elle a toujours voulu que je fasse des études en français, que je garde mon identité francophone. Et je crois que pour moi, c'était elle qui a vraiment nourri en moi cette passion pour la langue et la culture française. Mon père n'était pas francophone. Il venait d'origine allemand russe, mais il a appris la langue, il nous a toujours appuyés. Et puis, je crois que j'ai toujours été inspirée par cet ensemble de langues et de cultures. Et évidemment, j'ai marié aussi Denis, qui venait de Saint-Paul, alors un francophone de l'Alberta. Et puis, je suis très fière de dire qu'aujourd'hui, mes enfants et tous mes petits-enfants parlent français. Alors, ça fait partie de qui nous sommes. On a ça dans les tripes.
Pendant votre mandat, vous avez représenté la province de l'Alberta jusqu'à votre retraite en 2018 et vous avez été une ambassadrice hors pair de l'Alberta et des communautés francophones de l'Alberta et du Canada. Quelle était votre grande motivation dans cette quête?
J'ai eu le privilège de servir mon pays lorsque j'étais nommée au Sénat du Canada en 2005 par le très honorable Paul Martin. Et là, à ce moment-là, j'ai dit, moi, je serai la voix pour ceux qui n'ont peut-être pas la voix qu'ils devraient y avoir. Je serai la voix pour les francophones en milieu minoritaire. Je serai la voix aussi pour ceux qui ont besoin d'être promus, qui ont besoin d'être acceptés, qui ont besoin d'avoir plus de voix. Alors, les francophones en milieu minoritaire, comme vous le savez, ont des fois des difficultés, souvent des difficultés au niveau de l'éducation, au niveau des services en santé, au niveau de l'immigration, au niveau de recevoir des services en français. Alors, pour moi, c'est un privilège d'entendre les causes, d'entendre les gens qui venaient me voir pour plaidoyer, m'indiquer leurs besoins, leurs intérêts, leurs causes. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, de leur donner une voix dans mes fonctions de Sénat, en posant des questions, en mettant de l'avant des motions, en leur donnant une voix, voilà.
En leur donnant une voix. Vous venez de parler du Sénat? Votre premier discours au Sénat portait sur l'importance de l'éducation postsecondaire et le développement de l'éducation francophone en général. Comment pensez-vous qu'on peut préparer les jeunes à relever les défis de notre société aujourd'hui, particulièrement la société francophone?
J'ai toujours adoré travailler avec les jeunes. Pour moi, c'était un grand plaisir d'avoir été professeure, chercheure et doyenne à la Faculté Saint-Jean et de travailler avec les jeunes. Et je trouve toujours inspirant de travailler avec les jeunes. Aujourd'hui, les défis sont grands, je pense, pour nos jeunes. La société reçoit beaucoup de messages mixtes et je crois que nos jeunes reçoivent beaucoup de messages mixtes avec les médias sociaux, avec tout ce qui se passe. Alors, je trouve que c'est difficile. Mais je pense aussi qu'il y a aussi des occasions pour nous d'essayer de trouver des occasions pour inspirer nos jeunes et de leur donner des modèles. Et je dis toujours aux jeunes, il faut suivre nos passions, il faut essayer de vivre une vie qui a un sens et de se trouver un but. Et de ne pas avoir peur de prendre des risques, de s'engager dans quelque chose qu'on croit dedans. Et je pense que les jeunes sont de nature passionnés, curieux, Et je leur dis, allez-y avec votre passion, allez-y avec vos intérêts. Et je crois que notre rôle, c'est d'essayer de les accompagner.
Madame Tardif, aujourd'hui, vous êtes membre de l'Ordre d'Excellence de l'Alberta. Quel message adresseriez-vous à la communauté francophone aujourd'hui?
Je suis fière d'être ici. Je suis fière de parler de l'importance de notre francophonie, de l'importance de nos deux langues officielles au Canada et de faire la promotion de la langue française auprès des francophones et des francophiles. Et c'est le message que je vais donner un peu plus tard dans mon discours ce soir. Et puis, voilà, j'espère que les francophones pourront célébrer avec moi et moi, je célèbre avec eux ce merveilleux prix que je reçois ce soir.
Madame Claudette Tardif, je rappelle, vous êtes enseignante, professeure, chercheur, doyen, sénateur et bâtisseur communautaire. Aujourd'hui, membre de l'Ordre d'Excellence de l'Alberta. Une fois de plus, félicitations et bonne suite pour le reste.
Un grand merci. Au revoir.
Éline Koulou, journaliste pour IGL.
Ici Adèle d'Halifax en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue.
Boris Chassaigne avec vous. Changement de ton et de cap, on se tourne vers la Ville-Reine où le Collège Boréal de Toronto vient d'inaugurer son sixième et presque dernier campus permanent. L'inauguration de ce nouveau campus a bien sûr rassemblé plusieurs des acteurs du milieu de l'éducation et de la santé, lesquels ont pu profiter d'une tournée des nouveaux locaux dont les travaux ont quand même accusé, doit-on le dire, 3 ans de retard. L'objectif étant de transformer 2 bâtiments historiques du quartier de la Distillerie en laboratoires et salles de classe. Marine Autogali en parle avec la nouvelle vice-présidente du Collège Boréal, Carole Nkoa.
Alors aujourd'hui, je pense que c'est un moment de joie. Je pense que c'est aussi un grand moment pour le Collège Boréal qui se stabilise après presque 2 décennies de changement de bâtiment. Et aujourd'hui, célèbre sa présence à la distillerie, une présence qui va durer pour d'autres décennies, évidemment. Alors, je sais pas, on est dans un lieu absolument un petit peu mythique pour moi, parce qu'on est quand même à la distillerie de Toronto. Et un site qui mélange histoire et surtout modernisme et innovation. Et je pense que c'est très proche des valeurs du collège, de jamais perdre notre héritage et puis de toujours aller vers l'avant sans laisser tomber nos rêves et nos objectifs. Hein.
Et donc un nouveau lieu, et pour vous, il y a aussi une nouveauté. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu cette nouveauté de votre côté?
Oui, nouveau lieu, nouveauté pour moi, bien sûr, parce que je suis toute nouvelle vice-présidente de tous les campus du Centre Sud-Ouest. Et l'intention, évidemment, c'est de valoriser notre présence et de développer aussi nos programmes et puis nos relations avec les communautés franco-ontariennes pour qu'elles puissent continuer de s'épanouir à travers nos programmes et accéder économiquement à des carrières de leur choix. Et on sait que c'est pour se sentir heureux dans la vie, il faut qu'on ait aussi un bel emploi. Et je pense que le collège a cette finesse de comprendre au niveau local quels sont les besoins des communautés et d'adapter les programmes en fonction de ces besoins-là, avec une vision vraiment 360 quelque part, qui accompagne l'étudiant aussi dans d'autres sphères privées de sa vie en dehors de ses études. Alors je trouve que tout ça c'est bien pensé et je suis honorée finalement d'être le capitaine du bateau des campus du Centre Sud-Ouest. Hein.
Ce nouveau lieu, il vient aussi avec des nouvelles offres, avec des nouveautés pour les étudiants?
Effectivement, nous célébrons l'arrivée de nos premiers bacs, dont le bac en sciences infirmières. Et ça, c'est le premier d'une série de bacs qui vont arriver prochainement. Et je pense que ça démontre aussi la force du collège d'offrir non seulement des programmes rapides pour permettre une intégration dans les plus brefs délais, finalement, sur le marché du travail, mais aussi maintenant de pousser notre expertise jusqu'au bac. Et ça, je pense que ça démontre la qualité de nos programmes et la qualité de la vision du collège.
Il y Et à notre écran radar, on prend d'abord la direction de la Basse-Côte-Nord avec Maxime Jaudoin, qui nous apprend que le gouvernement du Québec vient d'accorder une aide d'1,4 million de dollars pour favoriser le développement durable de la MRC de Manicouagan. L'annonce en a été faite par le député de la circonscription québécoise de René Lévesque, M. Yves Montigny. Les élus qui espèrent pouvoir stimuler le développement d'une économie verte dans la région avec cette belle subvention, y attirer de nouvelles entreprises et familles. Ici, M. Montigny.
1,4 million, c'est important dans un volet important de mise en œuvre d'un programme pour assurer une meilleure attraction de nouveaux citoyens. Vous savez, la Côte-Nord est une région en décroissance. La seule région au Québec où on perd des citoyens, où on n'augmente pas notre population, alors il faut freiner cette décroissance. Et 1,4 million vient soutenir la MRC pour être capable, pour donner le goût d'habiter notre Côte-Nord. C'est magnifique habiter la Côte-Nord. C'est pour ça que notre gouvernement est là, pour soutenir avec un montant considérable, 1,4 million, l'attraction de la Côte-Nord. Et évidemment, comme on fait l'attraction de la MRC Manicouagan, ça peut se répertorier aussi sur les MRC avoisinantes. Parce qu'on le sait, quand on fait la promotion des plages, il n'y en a pas qu'en Manicouagan. Il y en a extraordinaire aussi en Haute-Côte-Nord, vous savez. La région de la Côte-Nord, de la Manicouagan et de la Haute-Côte-Nord a un potentiel éolien incroyable, un potentiel hydraulique déjà sur place avec les centrales hydroélectriques actuelles.
Et on reste avec Maxime Jaudoin pour s'arrêter au Festival de la Baleine Bleue qui lance un cri du cœur. L'événement dit être la croisée des chemins, sa pérennité menacée par un cruel manque de ressources humaines, si bien qu'il risque de mettre la clé sous la porte après 42 ans d'existence si aucune solution n'est trouvée. Ces bénévoles se disent épuisés, essoufflés et affirment tout faire pour éviter la dissolution pure et simple de l'organisme qui chapeaute l'événement. Aux Escoumins, Maxime Jaudoin est avec Marie-Lise Bouchard, présidente du Festival de la Baleine Bleue.
On avait déjà lancé des cris du cœur, même avant 2019. Nous, dans le fond, on tenait les éditions juste pour pas voir partir le festival, parce que inévitablement, c'est comme un fleuron de Bergeron, si je peux dire ça comme ça. C'est un des plus vieux festivals de la Côte-Nord. Il a été fondé en 77. On est rendu à 42 éditions. Les Bergeronniques se l'approprient beaucoup, beaucoup. On était essoufflés. On fait un dernier cri du cœur via notre page Facebook. Et si jamais on n'a pas personne, on devra entamer les démarches de dissolution de l'organisme. Et ça serait un geste qu'on ne veut pas se rendre là parce que ça nous ferait énormément mal au cœur. C'est important de préserver notre patrimoine aussi en quelque part.
L'organisation prendra une décision finale début novembre. Et finalement, plus à l'ouest, à Matagami, en Jamésie, dans la région administrative du nord du Québec, l'organisme partenaire à parts égales de Matagami annonce qu'il va déployer de nouveaux services d'aide et d'accompagnement aux gens seuls, aux aidants naturels et aux personnes en perte d'autonomie. Matagami, qui compte un peu plus de 1500 âmes et dont l'économie repose essentiellement sur l'industrie minière et forestière, ben ça, c'est situé, donc Matagami est situé à 560 km de Montréal. C'est pas si loin que ça. Carole Beaudoin, travailleuse de milieu chez Partenaires à parts égales, en parle avec Michael Grandjean.
Si quelqu'un connaît quelqu'un qui peut avoir besoin d'aide, qui est épuisé parce que c'est un aidant naturel, il aurait besoin d'une pause, ça peut être d'une heure, de deux heures, on peut pas laisser la personne toute seule, ben c'est là que je peux aller aider. Là. Je suis pas là pour faire du ménage, je suis pas là pour faire à manger, sauf que on peut aller prendre une marche, on peut jaser, on peut jouer à des jeux de société, on peut sortir, puis pendant ce temps-là, l'aidant naturel, ben peut aller prendre une pause, aller prendre un café avec ses amis pour lui donner du répit. Puis en même temps, les gens seuls, c'est le même principe aussi. Fait que les gens peuvent faire la demande ou quelqu'un connaît quelqu'un qui est seul, qui est isolé, peut nous mettre en contact. À partir de là, si la personne accepte, c'est là que moi j'interviens.
Et bien voilà qui complète cette autre édition de Point de vue. Merci à nos journalistes Maxime Jaudoin, Marine Autogali, Marie Hélès, Iline Coulou et à notre nouveau collaborateur dans le nord du Québec, Michael Grandjean, coordonnateur national Stéphane Bénard. Point de vue est une production du Fonds canadien de la radio communautaire. Notaire à Ottawa, Boris Chassagne avec vous à l'animation et à la réalisation. Merci d'être là et à la semaine prochaine. Ciao!
Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.